Format 3, ça va visiter la ville la plus nordique du monde, Longyearbyen.
Nous sommes
Longyearbyen, oui.
C'est pas mal, pas mal. Bel effort, Jean-Michel. Nous sommes avec Marie Geyser, monteuse, réalisatrice, qui a signé un documentaire sur cette étonnante région. Un documentaire intitulé The Living. Il est projeté ces jours dans plusieurs salles romandes.
Bonjour Marie Geyser.
Bonjour.
Alors Longyearbyen, c'est un endroit très particulier, c'est la seule ville de l'archipel du Svalbard, entre la Norvège et le pôle Nord. Elle a 2000 habitants, la nuit polaire dure 3 mois durant l'hiver, mais ce n'est de loin pas la seule chose qui la distingue. Alors dites-nous un peu, qu'est-ce qui rend cet endroit si particulier ?
Alors, ce qui leur rend l'endroit particulier, déjà, il y a le climat. On est tout proche du pôle Nord, donc il fait froid. Comme vous le disiez, il fait nuit la moitié de l'année et jour l'autre moitié. Il y a 2000 habitants dans cette ville, il y a 3000 ours polaires autour de la ville. Et comme on est en dehors de l'espace Schengen, en fait, ça rend la ville accessible pour tout le monde, de toute nationalité. Sans permis ni visa, on peut s'y installer et y travailler. Ce qui fait que sur 2000 habitants, il y a 40 nationalités qui sont représentées.
Alors pourquoi est-ce qu'on a créé une ville dans un endroit pareil ?
Alors à la base, pour le travail, il y avait des mines de charbon. Et puis petit à petit, c'est devenu une communauté familiale.
Dans cette communauté familiale, parce qu'on se dit un endroit qui est comme ça un petit peu en dehors du monde, qui est en dehors de l'espace Schengen, où tout le monde peut aller travailler, ça peut aussi concentrer des gens qui ont des parcours un peu particuliers, des gens qui cherchent à fuir différentes choses, la justice par exemple.
Alors la justice, je pense pas, ou peu. Par contre, effectivement, des gens qui se questionnent sur la vie en général, des gens qui ont envie de faire un break. Longyearbyen, c'est un endroit dans lequel on n'est pas, dans lequel on ne meurt pas, c'est interdit. Et du coup, on y va, on sait qu'on y passe un temps. Et c'est vrai que les gens posent peu de questions et que c'est un endroit où on peut simplement redémarrer.
Mais comment est-ce qu'on peut interdire à quelqu'un de mourir à un endroit ?
Alors, sauf accident, bien sûr. Par contre, il n'y a pas d'hospice, il n'y a rien qui est prévu pour terminer sa vie d'une manière douce. Ce qui fait que les gens, quand ils commencent à avoir de la peine à se déplacer, y a de la neige, il y a de la glace par terre. Quand ça devient difficile, ils retournent simplement sur le continent.
Et interdit d'y naître, c'est parce qu'il n'y a pas de structure pour accueillir les
accouchements. Alors, il n'y a pas de maternité non plus. Et puis, effectivement, ça c'est une volonté. Comme c'était à la base une ville de travail et que ça le reste quand même, on n'est pas supposé y commencer et y terminer sa vie. Ils ont décidé que les femmes, à 6 semaines du terme, retournent sur le continent pour accoucher.
Et c'est un endroit où on travaille, vous l'avez dit, et c'est également un endroit qui ne connaît pas le chômage.
Alors c'est vrai, parce que c'est la condition sine qua non, par contre, pour pouvoir rester. Les gens doivent pouvoir subvenir à leurs propres besoins, ce qui fait qu'effectivement, tout le monde travaille.
Alors dans la bande-annonce de votre film, on entend différentes personnes que vous avez interviewées qui sont toutes d'accord pour dire que l'île a exercé une sorte de fascination sur leur esprit, si bien qu'ils étaient irrésistiblement pris par l'envie d'y vivre. Qu'est-ce qui explique cette attraction ?
Alors, j'ai pas encore bien compris, il m'est arrivé la même chose. En fait, moi, j'y suis allée en vacances la première fois et puis l'endroit m'a tant intriguée que j'ai eu envie d'y retourner. Et il y a quelque chose de simple dans les rapports humains. Et puis, il y a quelque chose de juste peut-être dans l'échelle, parce que la nature est tellement grande dans un endroit comme ça que ça force les hommes à rester, à être humbles et puis à fonctionner ensemble. Il y a quelque chose d'assez beau dans les rapports humains qui se passent là-bas, je pense.
Est-ce que c'est une sorte de paradis terrestre ? Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de soucis, on y va volontiers en vacances, on y reste fasciné.
Alors c'est un paradis pour un temps, parce qu'en même temps c'est un peu artificiel, il manque toute une partie de la société, c'est pas vraiment réel. Comme vous dites, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de gens malades, il n'y a pas de gens pauvres, et au bout d'un moment ça manque quand même, il manque un équilibre, donc c'est un endroit dans lequel on vit bien un temps, et puis après la vraie vie manque, je pense, quand même.
Et vous, quand vous avez décidé d'y partir en vacances la première fois, pourquoi cette idée d'aller à cet endroit-là précisément ?
Ça faisait un moment que j'avais envie de partir au nord et j'ai hésité longuement entre le Groenland et le Svalbard, le Spitsberg. Et finalement, je suis partie là-bas pour voir personne. Et c'est tout le contraire qui s'est passé.
Alors justement, voir personne, c'est possible. On peut même voir plus d'ours polaires que d'humains à Longyearbyen. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour se protéger ? Parce que c'est quand même un sacré danger.
Alors on quitte pas la ville sans être armé. C'est une autre des particularités. Pratiquement chaque ménage a son fusil. Les enfants dans la cour d'école, ils font pas des exercices incendie, ils font des exercices attaque d'ours polaires dans la cour d'école.
Ça ressemble à quoi ça ?
Alors la maîtresse sort avec une fusée éclairante et puis ça fait beaucoup de bruit et les enfants doivent s'habiller, se préparer vite et retourner se mettre en sécurité.
dans cet endroit, parce que moi je ne vais pas me lancer dans la prononciation du lieu, les gens ils y restent en général une durée de 6 ans en moyenne. Est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce qu'il y a des gens qui passent là toute leur vie?
Il y a des exceptions, par contre rarement toute leur vie, sauf accident justement, parce qu'en général avant de mourir on devient impotent et que là on doit retourner sur le continent.
Alors Marie Geyser, Longyearbyenne, vous y êtes allée tout d'abord en vacances, puis 3 semaines pour une résidence d'artiste. Le projet du reportage s'est concrétisé et enfin vous avez passé quelques semaines en mai et en octobre 2012 pour le reportage, pour le tournage du reportage. Qu'est-ce qui explique ce coup de cœur pour cette ville ?
C'est d'abord des rencontres avec des gens, je crois. Parce que l'endroit m'intriguait au départ pour ses paysages et finalement c'est la rencontre de Samuel, qui est un des personnages du film, qui a été le déclic. C'est un guide là-bas qui m'a beaucoup touchée et qui repartait 6 mois après le moment où on s'est rencontrés. Et du coup, ça a donné l'impulsion. Il a fallu le faire et il a fallu le faire vite. Et je me suis jetée dedans.
Alors, votre film s'articule justement autour de 5 portraits d'habitants de Longyearbyenne. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces rencontres ?
Alors, il y a Sam, le guide arctique, qui est français, qui s'est expatrié à Longyearbyenne pour passer une année, un cycle complet de jour et de nuit à Longyearbyenne. Il y a Eva Grandal, qui est en quelque sorte la mémoire du passé minier de la ville. Ses parents travaillaient là-bas dans les années 50, il lui reste peu de contact avec eux, et elle est en train d'essayer de reconstituer le passé de la famille au travers des photos que ses parents ont prises là-bas. Donc elle travaille là-bas en tant qu'archiviste. Et puis on a Christine Christophersen, qui est le maire de la ville, qui est une femme superbe, blonde, immense, avec un sourire incroyable et qui est solaire. Et puis on a Torgeir Mork, qui est le météorologue de l'aéroport, qui gère les flux des petits aéroports de l'archipel. Et puis qui atteint bientôt l'âge de la retraite, donc il se pose le problème d'un départ prochain, qu'il n'a pas envie de voir venir. Et puis on a Brennan, qui est chauffeur de taxi américain, qui s'est installé là-bas avec le rêve de pouvoir vivre un jour en Norvège et qui apprend le norvégien et qui espère ensuite trouver du travail pour descendre sur le continent.
Et toutes ces rencontres, elles ont eu lieu comment ? Il y a eu une rencontre qui a entraîné toutes les autres et puis ils ont accepté le projet de film et la caméra. Comment ça s'est passé ?
Alors bon, d'abord, la plupart d'entre eux, je les ai rencontrés la première fois quand j'étais en repérage, enfin en résidence en février. Ça a commencé par Sam et Eva. Eva, elle travaillait là où j'avais la résidence d'artiste, donc on s'est rencontrés un peu par hasard autour d'un café. Et puis ensuite, c'est Samuel qui m'a présenté pas mal de gens. Christine, je l'ai rencontrée assez naturellement parce qu'elle est le maire, et puis du coup, elle avait plein d'infos à me donner pour mieux comprendre l'endroit. Et oui, ça s'est beaucoup fait du bouche à oreille.
Alors pour la première projection du film que vous avez réalisé, vous êtes retourné à Longyearbyenne avec quelques amis d'ici. Et comment est-ce qu'ont réagi les participants au film lorsqu'ils ont vu le reportage dans lequel ils faisaient partie ?
Alors bien, très bien, j'ai eu un retour chaleureux, enfin autant qu'il peut l'être en Norvège, ils sont quand même un peu moins démonstratifs que nous, mais j'ai eu un très bon accueil, les gens ont été touchés. D'ailleurs, certains des commerces là-bas m'ont déjà approché pour commercialiser le DVD. Et non, ils ont bien réagi, parfois un peu surpris. Par exemple, Eva, donc l'archiviste, elle m'a confié beaucoup de choses très personnelles. Elle ne s'en rendait pas forcément compte. Elle pensait qu'on allait parler plus de la ville et un peu moins d'elle. Et elle a été d'abord surprise et puis ensuite très contente de la manière dont ça s'est fait.
Alors, dans votre vie professionnelle, vous êtes monteuse, mais pour ce film-là, vous êtes à la fois réalisatrice, monteuse, productrice, distributrice, enfin, vous faites tout. Monter ses propres images alors qu'on a l'habitude de monter celles des autres, c'est complètement différent comme travail ?
Alors, c'est complètement différent. Bon, j'ai quand même été un peu entourée. Hein. J'ai un producteur qui m'a rejoint. J'ai été entourée pour la post-production, pour le son, par une équipe neuchâteloise d'ailleurs, qui a très très bien bossé et qui m'a beaucoup aidée. Mais effectivement, c'est bizarre de passer de l'autre côté et puis de perdre ce recul que le monteur a d'habitude sur les images qu'il reçoit.
Il y a quelque chose qui paraît tout à fait étonnante lorsque l'on voit les images du film. On imagine un pays froid, mais les images sont quand même très chaudes. Les couleurs de l'image sont absolument chaudes et magnifiques.
Alors c'est vrai qu'il y a des lumières incroyables parce que le soleil passe pas en dessus comme chez nous, il nous tourne autour. Et du coup il y a cette lumière rasante qui est très chaleureuse, qui ressemble un peu à celle qu'on a à l'aube ou au coucher du soleil, et qui est un peu bleue, qui est un peu rose et qui est effectivement très chaleureuse et un peu surréaliste par moments.
Et puis pour ce film, pour tourner ce film, il y a une chose que vous avez dû faire, que peu de réalisateurs ont dû faire, c'est que vous avez dû apprendre, vous entraîner et vous former au tir. Ça, c'est quand même assez particulier comme expérience.
Ouais, c'était particulier parce qu'effectivement, il y a la présence des ours. Donc d'abord, on essaye à tout prix d'éviter de se retrouver en situation de devoir se défendre et de devoir tirer. Heureusement, j'en ai pas rencontré, mais c'est vrai que c'était une mesure préventive. Donc, j'ai pris des cours de tir ici en Suisse. Et oui, j'étais armée d'un fusil pendant une partie du tournage.
Vous avez donc pu protéger votre caméraman de cette façon. Et c'est grand merci parce que maintenant, on va pouvoir voir le film. Le film qui va être projeté donc ce dimanche à 11h au cinéma Apollo à Neuchâtel. Mardi, le 27 mai à l'ABC à la Chaux-de-Fonds. Et le 4 juin au cinéma Minimum également à Neuchâtel. Et puis, Longyearbyen, Marie Geyser, vous y retournez prochainement?
Alors, ce n'est pas prévu pour le moment, non. Je pense que j'y retournerai un jour. Ça me paraît difficile de faire autrement maintenant.
Et puis, alors, choisir la ville la plus au sud, peut-être.
Par contraste.
Il y a un début d'idée. La première fois, j'ai découvert l'archipel sur un bateau, sur un voilier. Et il se trouve que le capitaine du bateau en question part pour la Patagonie bientôt et qu'on est toujours en contact.
Alors, projet à suivre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
Et puis, on vous souhaite une très belle projection.
Merci.
Les amis Format 3 tirent sa révérence pour le week-end. Bon, on aura le plaisir de vous retrouver lundi. D'ici là,
avec
on vous
plaisir.
Souhaite à toutes et à tous une belle journée, un beau week-end.
Bon week-end, à bientôt.
À 3, c'est plus sympa. Format A3.